L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée. Tu as été par l'amour créé.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé Faire oraison, c'est, trois petits points, deuxième épisode, octobre 2024, quand je fais oraison, je fais silence. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Je le sais, tu te trouveras dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi.
Nous sommes déjà à la deuxième rencontre de cette année. Je voudrais rappeler un petit peu, faire oraison, c'est, tu en as mis un certain nombre de verbes. Alors je rappelle, premièrement, il ne s'agit pas d'une méthode. On n'est pas en train de dire que pour faire oraison, il faut faire ceci, cela, etc. Ce n'est pas ça. Ça, je pense que c'est assez... Enfin, c'est clair. On se le dit souvent. Nous n'avons et nous n'aurons jamais de méthode pour faire oraison. Et c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, qu'on ne finit pas par trouver notre truc, des façons de faire. Mais, et c'est un petit peu le deuxième point sur lequel je vais tout de suite insister, rappeler. Lorsqu'on dit, on évoque les choses, un faire oraison c'est, je ne parle pas seulement des choses qu'on s'apprête à faire, je parle des choses qui se passent durant l'oraison. Durant l'oraison, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent en nous, qui ne sont pas forcément des choses qu'on a cherché à mettre en place par nous-mêmes, c'est pas on a à peine mis les choses en place, puis pouf, par réaction en chaîne, ça a déclenché je ne sais quoi. À partir du moment où on fait oraison, à partir du moment où on entre en oraison, et je vais revenir, parce qu'aujourd'hui je vais un peu parler du silence, je vais revenir sur cet aspect quasi spatial pour parler de quelque chose qui n'est pas spatial. Entrer en oraison, quand vous entrez en oraison, vous ne vous déplacez pas là. Bon. Les images, les descriptions spatiales sont toujours très intéressantes, elles sont très révélatrices au plan anthropologique et donc aussi dans notre prière. Ce soir, je voudrais parler du silence. Je me souviens qu'il y a au moins 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, on a parlé, mais c'était à Saint-Martyr, on a parlé du silence. Je ne parle pas du silence en général. Je parle du silence dans l'oraison, et j'en parle sous l'angle que je viens un petit peu de vous rappeler, c'est-à-dire que je parle du silence en tant que qu'il a lieu. Il a lieu durant l'oraison. Alors, je me suis un petit peu... dernière chose, je précise aussi, si j'en reviens, alors je les ai plus sous les yeux, mais les verbes que je me suis amusé à mettre là sur... j'ai vu ça avec Lynn, sur notre visuel, là, ne sont pas des verbes qui viennent par ordre de priorité, et du reste, ce que je propose ne vient pas forcément par ordre de priorité. Je suis pas en train de dire, même si je suis quand même pas idiot, pas complètement stupide, de parler du silence, parce que c'est probablement l'une des premières choses qu'on veut faire ou qu'on éprouve dans l'oraison. Commençons par quelque chose d'assez simple, précisément parce que, tout de même, beaucoup d'entre nous, nous cherchons le silence dans l'oraison, et nous cherchons du silence pour faire oraison. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour ça. Et on est aussi, je pense, tous et toutes d'accord pour reconnaître que faire silence, c'est pas encore le silence. Faire silence, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Alors, se taire, c'est déjà bien, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont enseignants, enseignantes ou qui l'ont été, mais on a tous été étudiants, là. Se taire en classe, là, c'est pas vraiment faire silence, là, on est bien d'accord avec ça. Donc, mais là, je ne parle pas d'une salle de classe. Se taire, c'est déjà bien. Faire silence, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que nous cherchons à le faire et ce n'est pas forcément tout de suite voué à l'échec, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux tout de suite souligner, et je cherche à décrire au plus près, hein, je veux tout de suite souligner que faire silence nous fait sentir que nous faisons silence pour rejoindre un autre silence. C'est un petit peu l'une des choses que je voudrais souligner ce soir. Quand je fais oraison, puis j'y repensais tout à l'heure, la chapelle était assez silencieuse. Quand je fais silence, intérieurement, je fais silence parce que je cherche le silence. Et le silence que je fais, c'est pas le silence que je cherche. C'est nécessaire de faire, je trouverai jamais le silence si je ne fais pas moi-même silence, ça c'est bien clair. Mais je fais silence pour, en quelque sorte, intérieurement m'orienter vers le silence que je cherche, qui est différent de moi-même. Et c'est pour ça que je disais, en tout cas c'est ce qui m'est venu en cherchant à décrire les choses. Décrire, c'est pas prescrire, hein. En décrivant, il m'est arrivé cette constatation que j'ai déjà faite plus d'une fois, que pour bien des choses de l'âme, parce que là on parle de notre âme au sens de la psyché, notre intériorité dans toutes ses facultés, dans tout, etc., qui renferme elle-même son propre centre et qui est d'ailleurs de la pointe des pieds jusqu'au plus profond du centre de l'âme en passant par l'âme elle-même et ses facultés, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Seulement, dans l'oraison, on utilise moins la pointe des pieds et plus les facultés de l'âme. Bon. Lorsqu'on parle de l'âme, voyons, les descriptions spatiales sont intéressantes parce que nous sommes. L'intériorité est un espace. Hein, et on est loin d'occuper d'un seul coup. Bon, on est dans notre corps, puis vous savez qu'on ne peut pas en sortir, hein, c'est normal. En revanche, la façon que nous avons d'être en nous-mêmes. On peut le décrire selon les images que, par exemple, je poursuis en ce moment même, qui disent combien, en fait, en nous-mêmes, nous nous déplaçons en nous-mêmes, nous allons à la rencontre de nous-mêmes, nous allons en rencontre aussi de ce que nous gardons en nous-mêmes, hein, de monde, de relations, de Dieu, bien évidemment. La manière avec laquelle nous nous mouvons, en quelque sorte, dans cet espace intérieur, la qualité de ce mouvoir intérieur, dit quelque chose de ce que nous cherchons à atteindre, de ce que nous atteignons, parfois aussi de ce que nous ratons. Et je reviens encore à cela, lorsque je fais oraison, lorsque je cherche à faire silence, c'est que je me mets en quête d'un silence. Et me mettant en quête d'un silence qui n'est pas exactement le silence que je suis en train de, que j'ai réussi plus ou moins à faire, parfois avec facilité, parfois avec difficulté, eh bien c'est comme si je partais de là pour me mettre en quête d'un espace plus silencieux, d'un espace où règne un silence qui soit pas seulement le silence que moi je fais, qui soit d'une qualité plus profonde. Du reste, c'est intéressant de voir, on ne va pas à la quête du silence intérieurement sur un pas martial, on se glisse dans le silence. Ce qui dit encore une fois que le silence a quelque chose de spatial. Pourtant, le silence n'est pas une qualité. Vous savez très bien, nous le savons, que le silence n'est pas une absence de son. On parle bien d'une perception de l'âme. Pour un micro, il n'y a pas de silence. Il y a une absence de signal. C'est pas la même chose. Et je fais souvent ce genre de remarque. C'est peut-être trouvé que je l'ai fait trop souvent, mais parce que nous sommes tous et toutes influencés par veuve pas, par une anthropologie aujourd'hui commune, quotidienne. Enfin, une anthropologie, je ne parle pas d'une école fermée, mais nous avons tous et toutes des façons de nous exprimer qui nous apparentent en fait à des machines. On croit par exemple que pour décrire notre œil, le plus simple, c'est de dire que c'est une caméra. J'en parlais récemment, sauf que c'est en anglais, donc mon anglais m'a un peu lâché, avec un ami justement revenant du Témiscamingue, et je lui disais, un homme plus âgé que moi, je dis, ben non, Brian, notre œil, c'est pas une caméra, là. Et d'abord, la caméra, elle ne nous voit pas. Et c'est pareil pour un système de captation de son, comme le micro que j'ai là. Il n'y a pas de silence pour le micro, il y a juste une absence de signal. Ce qui veut donc dire que c'est parce que nous savons ce qu'il en est du silence et que nous le désirons d'une certaine façon. Que nous pouvons parler du silence comme de quelque chose de bien réel, et non pas comme d'une absence purement et simplement, d'un non-signal, d'un non-son. La deuxième, je procède pas par étapes, mais j'assemble des points comme bien souvent. Dans ce silence, me glissant dans ce silence, eh bien, ça me vaut une première chose, c'est que je me glisse silencieusement dans le silence. Hein, ça va un petit peu ensemble, cette affaire-là. puisqu'on ne peut pas entrer dans le silence sans chercher à ne pas faire de bruit, ça paraît évident. Mais je me laisse guider dans le silence par ce qui est silencieux. Et je pourrais même ajouter par qui est silencieux. J'y avais pas pensé, donc je ne l'ai pas écrit, mais je vous retrouverai la référence éventuellement. Dans le livre de la vie, dans son autobiographie, Thérèse d'Avila, qui cherche sans cesse des images. Thérèse d'Avila cherche à un petit peu expliquer ce qu'il en est de ce silence qui, alors j'allais dire qui trahit, mais ce n'est pas une trahison là, ce silence qui recèle une présence. Et elle dit, mais vous savez, c'est comme si vous êtes dans une pièce, la lumière est éteinte. Ça, je sais que je l'ai déjà dit l'une ou l'autre fois dans l'un ou l'autre groupe. Vous êtes dans une pièce parfaitement obscure, la lumière est éteinte, mais comme vous savez qu'il y a quelqu'un, le silence et l'obscurité ne sont plus habités de la même manière. Je synthétise ce qu'elle dit, hein, et ça, je crois que tous et toutes, on peut faire cette expérience-là. Alors, ça peut être une expérience épeurante. Vous croyez que vous êtes tout seul dans une pièce et vous avez éteint la lumière pour, je sais pas, moi, écouter de la musique ou n'importe quoi, ou pour vous relaxer, puis tout d'un coup, vous percevez qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est épeurant comme situation, je ne vous la souhaite pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, la Thérèse, elle parle de celui qu'elle veut rencontrer, du vivant que nous voulons rencontrer, la Trinité Sainte. Et elle dit, la nature du silence, la nature aussi de l'obscurité en est changée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une qualité de silence de celui qui nous attend dans le silence qui n'est pas du mutisme. Dieu n'est pas un grand muet. Dieu n'est pas un grand muet, mais Dieu est silencieux. Je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, ça me revient maintenant, je vous avais parlé du silence, alors je ne vais pas développer, mais je pense qu'une fois j'en parlerai plus longuement. Le silence comme qualité des choses, et entre autres la question de savoir si dans la nature il y a vraiment du bruit. Parce qu'en même temps, dans la nature, le silence, pas tant que ça, hein. Mais c'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur la nature du silence. Quand on dit, hein, moi je vais à la campagne puisque la nature c'est silencieux, bon. Forcément, si en plus vous êtes au mois de septembre et que c'est le grand concert des moissonneuses-batteuses à Sophia, jour et nuit, c'est sûr que ce n'est pas le silence. Mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est que il y a le silence, encore une fois, n'est pas forcément une absence de bruit. Ce qui veut aussi dire, et j'avance encore d'une coche, c'est que dans l'horizon, je peux avoir une façon de me mouvoir, d'évoluer dans le silence où je réalise que je me mets intérieurement à parler et que cette parole ne. Ce murmure intérieur ne brise pas le silence. J'avais en tête une très belle hymne que nous chantons pour la fête des saintes. Et je le dis parce que ceux et celles qui ont la liturgie des heures, vous le retrouverez, c'est au commun des saintes. C'est pour toi, fils de Dieu. Et à la troisième strophe, si je me souviens, ton nom crié sans briser le silence. Ton nom crié sans. Alors là, on parle carrément d'un cri. Hein. Ton nom crié sans briser le silence. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus intense. Alors ce que je décris est beaucoup moins intense et beaucoup plus accordé à ce silence dans lequel on se meut en cherchant précisément, là, il y a un point commun, à ne pas le déchirer, à ne pas le rompre, ce silence. Non pas parce que c'est une discipline, mais parce que dans ce silence, il y a déjà une rencontre qui s'opère, il y a déjà quelque chose à entendre, il y a déjà une présence à rejoindre. Et que ce que je peux me dire à moi-même, ou ce que je peux te dire à toi, mon Dieu, ne défait pas ce silence. Curieusement, ce sont des paroles qui ont la qualité du silence dans lequel je m'avance, dans lequel je progresse, dans lequel j'évolue. Un silence plus ou moins dense. Et vous percevez aussi qu'en évoquant cela, j'ai hésité à. Je me suis demandé si je devais aussi en parler ce soir. Je l'évoque. Parce que bien évidemment, il y a des liens. J'ai dit tout à l'heure que ce silence est bien autre chose qu'une absence de son. Il est des fois où ce que nous rencontrons dans l'oraison et effectivement un silence de l'ordre du mutisme, un silence qui fait mal, un silence sourd. On a déjà évoqué Marie du Saint-Esprit, cette carmélite du milieu du XXe siècle qui écrit des poèmes absolument magnifiques, hein, Des ciels sourds tuent mon cri. C'est de la poésie assez intense, là. Des ciels sourds, l'adjectif être sourd, des ciels sourds tuent, du verbe tuer, tue mon cri. Des ciels sourds tuent mon cri. Au travers de ce poème, dont je prends juste un vers, elle fait l'expérience d'un silence qui tue, en tout cas d'un silence qui étouffe. Et il est des fois où nous faisons silence et on est récompensé d'avoir fait du silence que par du mutisme. On est récompensé de bien mauvaise manière, mais ce qui répond à notre silence, ça n'est pas un autre silence, c'est un mutisme qui en fait vaut comme une absence. Alors je ne sais pas s'il faut en conclure que Dieu est absent, ou qu'il s'est absenté, ou qu'il s'est distancié, mais ce que nous éprouvons, ce qui peut nous arriver d'éprouver, et au moment où je parle, il est possible que l'un ou l'autre l'ait éprouvé aujourd'hui, ou il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce silence fait mal. Et c'est pas ce silence-là qu'on cherche. Alors, je m'étends pas, mais il y a 2 ans, quand on avait fait Grâce à la nuit, on avait entre autres évoqué la question, on avait parlé de la nuit de bien des façons, mais entre autres de la nuit des sens. Hein, je le dis bien vite, il y a quelque chose de bien évidemment connexe là-dedans. Parce que le silence que je fais est un silence dont je pressens qu'il permet, qu'il favorise une communion silencieuse, qui est pleine de présence, qui est pleine de sens. Et que je peux aussi éprouver, justement, et là je pense à une autre hymne. Alors là, vous l'avez au mercredi des Vêpres de la première semaine, je pense, à la mesure sans mesure. Tu nous manques, Seigneur, hein, de n'éprouver que ton silence. Et là, le silence dont on parle, eh bien, un silence qui ne résonne pas, un silence tue, un silence muet, un silence sourd, un silence qui pèse. Je l'évoque parce que je suis persuadé que ça nous est arrivé à chacun et ça nous arrivera. Et que c'est sûr que lorsque nous faisons silence, nous ne savons pas ce qui va en ressortir. Je ne parle pas, je pourrais en parler, mais vous voyez en fait que c'est vaste. Et pourtant, je ne parle même pas du silence en général, je parle bien de ce qui se passe dans l'horizon, d'un côté de mon intention de faire silence et de l'autre côté du silence qui se fait. Ou qui ne se fait pas. Hein, vous savez, quand on dit dans une salle de concert, hein, le silence se fait parce qu'on s'apprête à écouter quelque chose. Il y a quand même plusieurs musiciens et musiciennes ici ce soir, et spécialement dans le chant, on le sait. Mais qu'on chante ou qu'on chante pas, qu'on fasse ou pas de la musique, je pense que tous et toutes ici, vous aimez la musique. Alors quand on la pratique, en plus, on sait ce que ça vaut. Le silence qui précède la première note, hein, et pour ceux et celles qui chantent, la première inspiration qui n'est possible que dans un silence, le premier respire, il est très intense. Il est très intense. Je m'inspire de choses que j'ai écrites. Plusieurs jours d'intervalle. Donc parfois les choses se heurtent un peu. Donc je voudrais ne pas trop me répéter. J'avais cette image qui me venait. Alors là, ça va expliquer. Je vais un petit peu déborder le sujet de ce soir. D'abord dans ce qui regarde ce caractère quasi spatial du silence. Et c'est curieux parce que je pense que vous avez déjà tous et toutes fait cette expérience d'avoir devant vous un paysage relativement vaste, un horizon vaste, pas quelque chose d'étroit, et de constater que, regardant cet horizon, alors écoutez, j'ai une image très claire pour ce qui me concerne et pour ce qui m'arrive de passer chez mes parents, ils habitent une colline. Et vers l'ouest, ils habitent en France, en Bretagne, et vers l'ouest, il y a 30 km de point de vue, au moins 30 km, puisque la colline domine un tout petit peu. Et je parlais tout à l'heure de moissonneuse-batteuse, et c'est saisissant le soir de voir le caractère spatial du silence, parce qu'il est clair que dans ce que je vois, c'est la campagne, dans ce que je vois, il y a des. Non seulement je vois sous mes yeux la moissonneuse-batteuse qui fait du bruit pas à peu près, là, mais d'une certaine manière. Il y a quelque chose de spatial dans le paysage qui est aussi en termes sonores. Mais je vous dirais que c'est vrai aussi de scènes beaucoup plus urbaines. J'ai par exemple observé cela plusieurs fois lorsque des enfants, ça peut être tout simplement mes neveux-nièces ou mes petites neveux-nièces, Des enfants qui jouent dans un espace comme un parc public, par exemple, ça crie, ça bouge, ça, etc. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus silencieux dans ce qu'ils font. Il y a des zones de silence qui sont assez étonnantes. Alors, j'évoque cela parce que de toute façon, je crois que, et là, je ne parle pas d'une réalité physique, hein, je parle d'une réalité perçue, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du spatial. Pas d'abord, alors je ne parle pas du son, mais je parle du silence ici. Et tout cela communique. Et l'image que j'avais, c'est un petit peu comme une masse d'eau qui est une et qui est pourtant traversée de courants fluides. Donc c'est une seule masse fluide, mais dans cette fluidité, donc tout est au contact. Dans cette fluidité, il y a des courants divers et des températures et des chaleurs diverses. Hein, si vous êtes déjà baigné, rien que dans nos lacs au Québec, là, la surface est à 25 degrés, puis au bout d'1 m 50, c'est curieux comme l'eau baisse en température. C'est encore plus vrai avec la mer ou dans une rivière, parce que là, vous avez vraiment des courants. Pourquoi j'évoque cela? Pourquoi je prends cette image un peu curieuse? Elle m'est venue une fois durant l'oraison, puis je l'ai quand même gardée. Alors je la propose, mais je ne sais pas si elle fonctionnera. Parce que non seulement pour le silence, mais plus globalement, pour l'oraison, pour notre oraison, elle est un petit peu comme cette masse liquide. Et il y a des. Elle forme un tout. Et pourtant, il y a des courants de différentes températures et de différents sens, de différentes orientations. Et les choses ne sont pas sans s'influencer les unes les autres. Je disais un petit peu plus tôt que dans ce silence, il y a des paroles qui ne rompent pas le silence. Étant entendu que dans le silence qui se fait, dans l'horizon, pas seulement le silence que je fais, mais le silence qui se fait, qui est pas sans rapport avec mes efforts, mais qui n'est pas le fruit de mes efforts, qui est un petit peu autre chose, dans ce silence, il y a effectivement des choses qui peuvent intervenir et qui rompent ce silence. Je ne parle pas de choses extérieures, hein, mais je parle de pensées, je parle d'émotions, je parle de sentiments qui viennent rompre ce silence. Et je le sais très bien, alors qu'extérieurement, je le sais très bien que j'ai perdu quelque chose de ce silence, et que le silence que je cherchais à atteindre, whoop, je m'en éloigne, il y a quelque chose qui vient perturber ce silence. Et pourtant, une parole pas prononcée plus fort que la précédente, elle peut très bien s'accorder au silence. Une parole, une pensée, une émotion, un sentiment, une image, une musique, peut s'introduire dans mon oraison qui vient pas en perturber le silence, qui peut-être même est permis, s'accorde au silence qui est intérieur. Et au travers de tout cela, je vise particulièrement cette parole que nous cherchons à avoir, une parole qui est parfois sans mots, avec celui avec qui on veut être et celui à qui on veut parler. Et c'est drôle parce que même pour ce qui regarde cette parole adressée au Seigneur, au vivant, il est parfois un fait que cette parole ne s'accorde pas avec le silence. Est-ce qu'elle le rejoint? Je ne le sais pas, mais cette parole ne s'accorde pas avec le silence. Nous n'arrivons pas à parler à Dieu de telle sorte que nous le rejoignons dans le silence et que, en fait, on ressort du silence. Ce que j'évoque là sont des choses exactement comme les courants de cette masse d'eau dans laquelle nous sommes, que nous sommes nous-mêmes, sont des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça que j'ai pris l'image de cette eau et de la fluidité. Je nous rappelle encore une fois que l'oraison n'est pas quelque chose. Alors c'est curieux parce qu'on dit toujours qu'on fait oraison, mais l'oraison n'est pas une chose que nous faisons devant nous. C'est quelque chose dans quoi nous sommes, un peu comme cette masse liquide. Mais si vous avez trop peur de l'eau, vous n'êtes pas obligé de plonger dans la masse liquide. Hein. Prenez notre image. Ce qui me permet d'ailleurs d'ajouter que les images que je vous propose, ces descriptions que je tâche de faire, je vous propose d'en évaluer la pertinence pour vous, pas de manière conceptuelle. Il est évident, ceux et celles qui ont fait un peu de philo, il est évident que j'ai une méthode qui est phénoménologique. Je ne vais pas m'en cacher là, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de philo. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire au plus près des choses qui nous arrivent dans des images qui sont mes images en espérant qu'elles vous aident. Mais d'un certain point de vue, moi je joue de la guitare, je ne peux pas vous obliger à tous jouer de la guitare. En revanche, ce que j'apprécierais, c'est que faisant de la guitare, vous ayez tous goût à la musique. Et que, avec votre instrument à vous, vous fassiez votre propre musique. Donc c'est un petit peu aussi ce que je cherche à faire avec les images que je vous propose. Je fais une parenthèse dans ma parenthèse, donc je ferme mes deux parenthèses. Et je reviens à mon point de départ. Si, alors je finis sur mon histoire, pardon, pourquoi je parlais de cette histoire de masse liquide, de courant et de choses liées, c'est que ce que j'évoque ce soir, qui est bien évidemment très incomplet, qui est même pour partie un peu, je teste en même temps que je vous parle, hein. Bah, j'ai écrit des choses, mais je les lis en fait pas tellement, parce que ce sont que des esquisses en quelque sorte. Ce que j'ai fait la fois passée, ce que je ferai les fois prochaines, mais vous savez, ceux et celles qui étaient déjà aux écoles d'Oraison l'an passé, mais particulièrement cette année, sont des choses aussi qui sont un petit peu, qui se répondent les unes les autres. Je veux dire par là que ce que j'ai dit ce soir dans ce faire silence et dans ce silence qu'on rejoint, si je prends un peu les deux aspects qui ont l'air un petit peu de se répondre, mais qui se correspondent pas toujours, la prochaine fois, je ne sais pas encore ce que je prendrai, mais on risque de recroiser des choses un peu similaires. Du reste, j'ajoute encore un élément. On est tous d'accord pour dire que faire oraison dans le bruit, c'est quand même un petit peu pénible. Quoique je crois que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu cette expérience, parfois très inattendue, de faire oraison et d'être dans le silence, au milieu d'un certain bruit. Je l'ai déjà fait, puis je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà fait. C'est pas l'absence totale de silence extérieur qui est la meilleure façon de rejoindre le silence intérieur, même si ça l'aide, on s'en cachera pas. Et on peut même être étonné de rencontrer le silence. Vous voyez que si c'est une rencontre, c'est qu'il y a un déplacement. On peut être étonné de rencontrer le silence dans des milieux qui. Alors là, pour le coup, si vous prenez votre micro, ça va saturer là. Il y a du bruit, par exemple. Il y a du bruit. Alors, c'est pas en guise de conclusion, mais c'est pour mettre un. Attendez, je lis quand même ce que j'avais écrit. Oui, c'est un peu ce que je viens de dire, mais la phrase n'est peut-être pas si stupide là. Oui, ça c'est une théorie que je laisse tomber, mais je dis la chose suivante à la fin de paragraphe. Le silence peut ainsi être concomitant avec la parole ou la musique intérieure, la pensée, là je parle de l'oraison, la pensée, parce que parfois dans l'oraison on se surprend à penser, la pensée avec l'immobilité de la contemplation ou du regard. Je reprends ma phrase, mais c'était pour dire que il y a des choses dans notre oraison qui, curieusement, semblent concomitantes. Là, si je parle du silence, curieusement, ben, je parle du silence, justement, c'est drôle. Dans l'oraison vécue, pas l'oraison que je me suis programmée, dans l'oraison vécue, je peux en arriver, mais ne nous observons pas trop quand on fait oraison, parce qu'on ne va jamais réussir à faire oraison, là. Mais je peux soudain réaliser que tout à la fois, je suis dans le silence et que je parle. De même que dans l'oraison, je peux réaliser que à la fois, je suis comme quasi immobile dans un état contemplatif, on va appeler ça comme ça, et que tout en même temps, je pense. Des choses sont étonnamment concomitantes, ce qui montre bien, enfin ça montre pas de façon scientifique, je suis pas en train de faire une preuve de laboratoire, mais ce qui nous fait rejoindre encore ce qu'on a déjà dit, c'est que l'oraison est plus que l'exercice intérieur de nos facultés. L'intelligence, la volonté, si vous tenez à une anthropologie bi-faculté, ce qui est un petit peu limité, mais ça fonctionne quand même. Notre raison est vraiment quelque chose qui se passe en nous, à quoi nous participons, qui nous agit et dans lequel nous agis, dans laquelle, lequel, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, nous agissons, et nous sommes agis, et qui est beaucoup plus riche qu'une simple chose que nous ferions. Qu'un simple process que nous maîtriserions. Et pour un peu, pas boucler la boucle, mais pour revenir un peu à quelque chose que j'ai dit dès le début, et ça j'écris en toutes lettres, nous savons très bien, il me semble, nous savons très bien que le silence que nous faisons n'est pas encore le silence que nous cherchons, n'est pas encore, ça veut dire qu'on va vers lui, et que l'un est peut-être un petit peu ce qui nous met en mouvement vers l'autre, sans certitude de l'atteindre, mais avec l'espérance tout de même. Nous savons très bien que le silence que nous faisons n'est pas encore le silence que nous cherchons. Il s'agit bien d'atteindre le silence, et pour atteindre le silence, il faut commencer par faire silence.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment j'appelle, quand je trouve fermée.
Vous avez écouté la deuxième rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles. Écrivez-nous à écoleoraisonzoom tout attaché à commercialgmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'horizon animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie « Âme ne te cherche qu'en moi » de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.